Vous écoutez RTL.
Quelle belle transition, Julien Doré qui chante la javanaise en japonais, c'est magnifique. Bonjour Mathieu Pinon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste du Japon. Alors bon, Noël c'est pas tout de suite, mais ça se prépare déjà au Japon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut absolument réserver dès maintenant quand on est japonais?
Ça se prépare déjà parce que de même que Halloween s'est bouclé depuis deux mois, bah Noël c'est en train de se boucler en ce moment. Et on prépare un rendez-vous romantique entre amoureux au KFC pour pouvoir fêter Noël.
Attendez, c'est ce fast-food pas terrible où on mange du poulet
surtout du poulet et de la dinde. Et comme Noël, on aime bien avoir la dinde de Noël dans la religion catholique. Les premiers expatriés qui n'en trouvaient pas au Japon dans les années 70 se sont rabattus sur ce succès d'année qu'est le poulet pané. Et à partir de là, le fast-food en a tiré toute une gamme promotionnelle et qui fait qu'aujourd'hui au Japon, Noël rime avec Kentucky Fried Chicken.
Et ben voilà, je me dis qu'on est qu'au début de nos surprises.
Et on peut aimer ça aussi. Noël au fast-food, ça vous étonne, c'était que le début. On continue de se balader au pays du soleil levant, comme on dit, avec des cafés à lapins. Vous verrez, c'est des vrais lapins. Et puis des bars pour se nettoyer, se curer les oreilles.
Oui, des vraies oreilles.
RTL, première radio de France. RTL.
Des lapins. Yasuo Ogato en possède une bonne dizaine. Yasuo n'est pas un éleveur, mais le propriétaire d'un café à lapins, car c'est la nouvelle mode au Japon.
Il s'appelle le Hari Café et c'est le premier bar à hérisson du monde. Baptisé Hari en rapport avec Hari Nezumi, traduction japonaise de hérisson, cette petite bizarrerie a vu le jour à Tokyo.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Ils sont fous, ces nippons, c'est le dossier du Parisien Week-end en partenariat avec RTL qui nous a donné envie de découvrir toutes ces curiosités, Mathieu Pinon. Parmi ces drôleries japonaises, on vient d'entendre, il y a le café à lapin, il y a aussi le café hérisson, on va se le garder pour dans un instant. Des cafés à lapin, il y en a beaucoup.
Alors, à l'origine, ce sont les cafés à chat qui ont commencé. Le café à chat, le Neko Café, s'est particulièrement démocratisé, vous pouvez même en trouver à Paris. Dans la foulée, donc, d'autres...
Attendez, c'est pas pour que les chats boivent des cafés.
Ah non, vous venez, vous payez votre consommation, ouais. Et vous êtes entouré de chats qui peuvent venir se blottir sur vos genoux, venir ronronner.
Ah oui.
Vous pouvez les papouiller pendant tout le temps que vous êtes présent.
Et ça marche avec les lapins aussi.
Et ça marche également avec les lapins, avec les hérissons.
Attendez, caresser un hérisson quand même.
Ben, il y a un an de ça, j'ai même eu l'occasion de caresser des chouettes, puisqu'il y a également les cafés à chouettes, ou à hibou, comme vous voulez. Donc, ça se décline en fonction des animaux de compagnie, et c'est vraiment un système de transfert. Puisque oui. Au Japon, le célibat pèse de plus en plus. Et donc, puisque dans les grands HLM, les grandes barres d'immeubles...
À Tokyo, notamment.
À Tokyo, ouais. Les syndics refusent aux locataires d'avoir un animal de compagnie. Parce que ça peut faire du bruit, ça peut gêner les voisins. Parce qu'il y a les problèmes d'urine, de pipi, de caca qui peuvent gêner les voisins si jamais c'est pas fait exactement dans la litière. Parce qu'il peut y avoir des voisins qui sont allergiques. Parce que ça peut être dangereux, ça peut mordre les enfants, etc., etc., etc. Pour toutes ces raisons, on se pose pas de questions. Interdiction d'avoir un animal chez soi. Du coup, les Japonais vont transposer leur affection pour les animaux dans des cafés spécialement dédiés à cet effet.
Oui, alors c'est marrant parce que quand on a commencé à préparer cette émission, notre premier réflexe, c'est de se dire, c'est le titre du Parisien Week-end, ils sont fous ces nippons, mais en fait, ça c'est notre regard d'occidental, de français ou de parisien. Ça dit beaucoup finalement ce que vous nous racontez de l'état de la société japonaise. C'est une société de célibataires, beaucoup.
Alors, le célibat frappe de plus en plus. Il y a eu un sondage qui a été fait en 2015. Et qui a été beaucoup rapporté en France, mais qui a été très souvent mal rapporté. Donc j'ai essayé de vous le donner très très spécifiquement. Ce sondage a été effectué sur 8754 personnes qui n'étaient pas mariées et 6000 et quelques personnes qui étaient mariées entre 18 et 34 ans.
Oui.
Uniquement sur les personnes non mariées, 60% des filles et 70% des garçons étaient célibataires. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de petite amie, petite amie, de fiancée, rien du tout. Et toujours sur cette portion donc, de non mariés, 40% des garçons, 42% des garçons et 44% des jeunes femmes ont avoué être vierges. sur 18-34 ans célibataires.
Oui, on avait un peu généralisé.
Et on est arrivé à 40% des japonais de moins de 34 ans sont célibataires. Oui, non, c'est ceux qui n'ont pas de relation.
On a bien compris.
D'où l'importance de l'animal de compagnie qu'on va caresser, dont on va s'occuper dans ces bars. Mathieu Pinon, vous publiez une année japonaise immersion dans le quotidien japonais au fil des 12 mois de l'année. C'est aux éditions Inis. Cette passion pour les animaux, c'est un grand business. Est-ce qu'il y a aussi des supermarchés?
Alors oui, vous avez des animaleries mais gigantesques. Ouais. Par exemple, à Odaiba, vous avez un grand centre commercial qui s'appelle Aqua City. Et dans Aqua City, il y a une animalerie qui s'appelle Pet Plus. Et quand vous allez à Pet Plus, vous pouvez acheter des espèces de body pour chiens, des poussettes pour chiens, des gâteaux d'anniversaire pour chiens. Vous pouvez mettre votre chien pendant 10 minutes dans un caisson à oxygénation. Je l'ai vu de mes yeux vus.
À condition d'avoir un chien.
Et de préférence pas un Saint-Bernard. Hein. C'est plus en mode Caniche Yorkshire.
Ah, ils n'ont pas inventé le caisson à Saint-Bernard.
Et pour vous donner une idée, le marché des animaux de compagnie, c'est 1500 milliards de yens au Japon, ce qui fait environ 12 milliards d'euros annuels.
C'est pas mal.
Les Japonais sont seuls et pourtant, comme tous les humains, ils ont besoin d'amour. C'est heureusement, il y a les coussins petits amis à bras.
Bonne
ou petit ami à bras si on en a qu'un. Restez avec nous. On va en serrer un, tiens,
un
dans
seul
un
bras
instant,
ou un seul ami.
14h15h.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
This is affecting me. Darkness is coming down, and I can clearly see. I wish we could be together.
Second extrait de Jump On Board, c'est le nouvel album de Texas, le groupe de Charline Spiteri qui est en tournée en France avec Cartel et notamment à l'Olympia les 7, 8 et 9 novembre. Et puis on a aussi des Français qui se piquent de chanter japonais. Il n'y a pas que Julien Doré, écoutez.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. RRRTL.
Bonjour, c'est Mathieu Pinon,
La curiosité est un vilain défaut.
C'est Mathieu Pinon,
Nioi no motoa, Ginga Tatsu.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
fou, non?
Ah oui, les drôles d'habitudes des Japonais, ça a rendu dingue notre réalisateur André Facetta, qui a fait passer Mathieu Pinon pour un hystérique. Mathieu Pinon, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec des barres chocolatées Kit Kat, pour ne pas les nommer. Alors, pendant que vous répondez à ma question, je vais goûter celui que vous m'avez généreusement offert.
Alors, il est à quoi
la,
déjà?
La question, c'est combien, est-ce qu'il y a beaucoup de goûts, de saveurs différentes au Japon? Et pendant ce temps-là, je goûte.
Il y en a plus de 200 environ. C'est donc une spécialité que se sont fait Kit Kat au Japon, à savoir de rester sur le principe de la gaufrette, mais à la place d'avoir du chocolat noir autour, on met du chocolat blanc, ce qui permet de rajouter des arômes et des colorants à volonté. Donc vous pourrez trouver des Kit Kat à la fraise, des Kit Kat goût potiron pour Halloween, vous pouvez trouver des Kit Kat à peu près tout et n'importe quoi.
Le mien, il est vert.
Vous allez vous faire quoi, Thomas?
Mais je, ouais, ça y est, il est long en bouche, comme dirait l'autre, et je commence à voir venir le wasabi.
C'est cela, voilà. Donc le Kit Kat au wasabi,
il y a des Kit Kat
le réfort qui épice un petit peu les sushis et qu'ils ont décliné également sur le Kit Kat.
Kit Kat sushi aussi, ça existe, ça?
Alors, Kit Kat sushi se sont fait longtemps charrier par internet, justement, parce qu'ils faisaient un petit peu tous les goûts et ils leur ont dit: hey, vous avez qu'à nous faire des Kit Kat au goût du sushi. Et pour un 1er avril, ils ont fait des Kit Kat en forme de sushi, mais qui avaient encore des goûts sucrés et non pas au goût de poisson, uniquement pour pouvoir répondre un petit peu à ceux qui les charriaient.
En ce moment, en France, on lutte contre les conservateurs, les additifs.
Là, j'en ai pris quelques-uns.
Au Japon, c'est une question aussi, ou vive les colorants?
C'est tout ou rien. C'est-à-dire que dès que vous allez aller dans un restaurant, là, vous pouvez être sûr que les produits qui vont être traités vont être faits avec le plus grand respect. En revanche, dès que vous prenez quelque chose d'industriel, entouré dans du plastique, vous pouvez vous dire que la législation japonaise est quand même plus tolérante que l'européenne.
Bien, donc je vis dangereusement. Mais c'était plutôt bon. J'ai trouvé ça sympa. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure des coussins à étreindre. Ça aussi, ça nous semble une bizarrerie absolue. À quoi ils ressemblent, ces coussins?
Alors, vous en avez plusieurs types. Les plus célèbres sont ce qu'on appelle les dakimakura, qui sont des espèces de traversins d'environ 1m50. Et sur lesquels la taie va représenter un personnage de manga, généralement féminin, très légèrement vêtu, voire très très court vêtu.
Bon, pour dormir, c'est normal.
Ou une actrice pornographique relativement célèbre. Et là, on se retrouve avec un objet qui est à la fois un transfert érotique et un transfert enfantin, puisque le dakimakura, les enfants le montent dès le premier âge, et ça sert parfois même pour les kinés. Pour les aider un petit peu.
Oui, mais avec d'autres personnages dessinés dessus, on l'imagine.
Là, il n'y a même pas de personnage.
Mais rien à voir avec les poupées gonflables. On fait dodo dessus, quoi. On pose sa tête.
On fait juste dodo dessus. On peut même l'enlacer, l'enserrer. Et pour les femmes, elles se penchent plus vers des oreillers avec une excroissance en forme de bras. Ce qui fait qu'elles ont l'impression de se blottir sous les selles de leur chéri, de leur compagnon. Elles ont la tête qui se repose sur l'oreiller. Et elles prennent le bras pour se le remettre par-dessus elles, avec l'impression d'être enlacées pendant qu'elles dorment.
Alors, pour dormir, il y a les coussins au Japon. Et pour se tenir compagnie dans la journée, pour les célibataires, il y a les robots.
Il y a les robots. Et alors là, cocorico, puisque Pepper, donc le robot qui est vendu par SoftBank, a été créé par Aldebaran Robotics, qui a été racheté par SoftBank en 2015, une société complètement française. Donc ça, c'est un petit peu la classe. C'est un robot français qui cartonne au Japon.
Quel rapport a-t-il ce robot Pepper avec les humains? Qu'est-ce qu'il leur rapporte?
Le but de Pepper, pour l'instant, c'est d'essayer de créer un lien émotionnel, de comprendre les émotions qui peuvent s'afficher sur notre visage. On est encore dans quelque chose de très pionnier, on est en train de découvrir. Donc, pour favoriser la communication entre les humains et les robots qui seront bientôt partie du quotidien, hein, dans la fin du XXIe siècle, Pepper est là justement pour travailler sur ce principe.
C'est normal, entre guillemets, on en voit beaucoup dans la société japonaise, ça commence à devenir un objet classique? Alors, ou c'est quand même cher et réservé à une certaine...
On reste pionnier sur le sous-coup, puisque ils y vendent 1000 par mois. Ils peuvent en sortir que 1000 par mois, donc ils n'en vendent que 1000 par mois. La première livraison, donc les 1000 premiers Pepper mis en vente, ont été vendus en une minute.
D'accord.
Voilà. Maintenant, pour ce qui est du tarif, le robot coûte lui-même 200 000 yens, ce qui fait de l'ordre du 1 600 € à l'achat. Ouais. Et il y a un abonnement, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites. L'abonnement est de l'ordre de 320 € mensuels.
Oui, ça fait cher.
Et ça dure pendant 3 ans. Ça fait cher. Maintenant, si on réfléchit, on prend tout ça et on divise, ça fait grosso modo 400 € par mois pour avoir un assistant personnel chez soi. Imaginez si vous payez un domestique. 400 € par mois.
Ça s'envisage.
Finalement.
Et vu comme ça.
Et pour le futur, avec la gériatrie qui va devenir très très importante, les assistants gériatriques, là on est vraiment en train de travailler quelque chose qui va prendre ses marques d'ici quelques décennies.
Alors vu comme ça aussi, on vous propose une sucette en forme de phallus et une séance de curage des oreilles. Ah. Bon, oui, c'est ça, RTL.
Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France.
La
curiosité est un
filin des
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a eu 決勝戦も大詰めです。ここまで両者ともパーフェクト。
Joli florilège de pubs japonaises. Toutes les curiosités des Japonais sont sur RTL. Et dans ce papier du Parisien Week-end, ils sont fous. C'est Nippon, un papier rédigé par Agnès Redon. On fait le tour de ces curiosités, de ces surprises, et on se régale de l'étrangeté de ce pays avec vous, Mathieu Pinon. Il paraît que chaque premier dimanche du mois d'avril, les Japonais brandissent des phallus. Qu'est-ce qui leur arrive ?
Le premier dimanche du mois d'avril, c'est exactement dans la ville de Kawasaki que ça se passe, et non pas dans tout le Japon. Il y a un festival qui s'appelle le Kanamala Matsuri, qu'on peut traduire par le festival du phallus d'acier.
D'acier en plus.
Voilà.
D'accord. Bah autant qu'il soit bien, tant qu'à faire.
C'est pas faux.
Et donc, c'est un festival qui est dédié à la fertilité.
Je suis pas sûr que ce soit mieux un phallus d'acier, Sidonie, mais bon, chacun ses goûts. Hein.
Et puisque c'est dédié à la fertilité, le phallus est particulièrement représenté, et donc c'est littéralement la fête à la quéquette. Vous demandez, vous trouvez des sucettes, des glaces, des bougies, les lunettes avec un épénis, ça se décline à l'infini, et pendant tout le dimanche... Tout le monde se marre par rapport à ce côté. C'est la fertilité, c'est important dans la vie, c'est le retour du printemps.
Et il ne faut pas qu'une quéquette pour la fertilité, vous savez, il faut aussi
un vagin,
des ovaires et tout. C'est un autre débat.
Oh, on n'est pas là pour faire des études et un cours de
Non, mais si vous voulez faire un enfant, je préfère vous dire comment ça marche.
J'allais dire d'astronomie, donc un cours d'anatomie.
Alors, il y a des étoiles.
Ce qui est passionnant, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour se moquer, ou pour même si ça nous fait rire, c'est logique, mais pour comprendre aussi cette société japonaise. À côté de ça, donc il y a la fête du phallus un jour par an à Kawasaki, mais à côté de ça, il y a une espèce de tabou, notamment dans les mangas ou dans la presse, sur la représentation du sexe.
Et même dans l'art, d'ailleurs.
Qui est interdite, c'est ça ?
Alors, en fait, il faut bien prendre en compte que tout ce qui va être fertilité, là, on est dans quelque chose de pur, de religieux, limite, puisque c'est une religion animiste, et donc dans l'animisme, la sexualité a une importance.
Ouais.
Alors que quand on va arriver à tout ce qui va être pornographie, là, il faut remonter à un article du Code pénal qui date de 1907.
Qui dit qu'il
interdit la diffusion de produits indécents. Et après, libre à chacun d'interpréter comme il le veut. Donc tacitement, tous les Japonais ont décidé qu'on allait mosaïquer les représentations de sexe, parce que ça, c'était indécent dans un contexte pornographique et non pas dans un contexte religieux.
Donc il n'y a pas de sculpture en forme de pénis dans les musées, par exemple.
Alors ça, on va vraiment éviter.
Mais dans une boutique, dans un sex shop, oui.
Eh bien, dans un sex shop, vous ne verrez pas sur les emballages, vous ne verrez rien de représenté. Ça serait même encore éventuellement mosaïqué.
Mais c'est quand même... Pardon,
en revanche,
vous...
quand on va vous montrer, parce qu'il faut vous faire l'article, quand vous verrez la collection de sex toys possibles, imaginables, pour vous, mesdames, là, ça va, c'est explicite. Hein. On se doute bien qu'on n'est pas face à un masseur d'épaule du catalogue de la Redoute. Non, c'est...
Ouais. Mais c'est un peu hypocrite, parce que moi, j'ai chez moi des mangas érotiques où le sexe, il est à peine barré par deux petits traits noirs, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, on sait très bien de quoi il s'agit.
Et surtout que certains ont même pris le risque de ne pas mettre cette ceinture. Ils n'ont pas eu de problème. Donc, à la rigueur, ça pourrait passer. Mais ça fait partie de l'imagerie japonaise. Et donc, par rapport à cette loi de 1907 qui n'a pas été retouchée depuis, personne ne veut prendre de risques.
Alors, il y a un autre tabou japonais, ce sont les mauvaises odeurs. Ils les traquent à longueur de temps, à tel point qu'ils ont inventé une application qui permet de quoi, Mathieu Pinon ?
Alors, qui permet de détecter ces mauvaises odeurs. Ce qu'il faut bien prendre en compte, justement, quand je vous parlais de pureté, c'est très très important, la propreté et la pureté au Japon. C'est la première chose qu'on attend de ses collègues de travail. Dans l'étiquette professionnelle au Japon, on attend que ses collègues ne sentent pas mauvais. Il y a même un terme qui s'appelle...
Remarquez, c'est désagréable.
Il y a même un terme qui s'appelle le sumehala, pour smell harassment, harassement aux mauvaises odeurs. Le collègue qui pue, tout le monde va lui dire tu pues, c'est insupportable.
Remarque, c'est franc de dire. Alors, cette application, elle marche comment ?
Alors, cette application qui s'appelle Kunkun Body, Kunkun, ça veut dire sniff, c'est le reniflement en japonais. Il y a un capteur qui va relever votre taux d'aldéhyde, d'ammoniac et que sais-je encore, pour vous dire si oui ou non, vous sentez pas bon.
Alors, une dernière question, il faut aller vite, pardon Mathieu Pinon, parce qu'on l'a annoncé plusieurs fois, ce nettoyage des conduits auditifs, le curage d'oreilles, c'est Kezako.
Alors, on va faire très bref, les mauvaises odeurs en question, il y a une différence entre les Japonais et nous, c'est une différence sur le gène ABCC11, et qui a également une influence sur la consistance du cérumen. Et chez les Japonais, c'est beaucoup plus sec et plus friable. Donc, plutôt qu'avoir un coton-tige, il y a une technique qui s'appelle le mimikaki. On s'allonge, on pose sa tête sur les genoux d'une dame, très généralement, qui, avec une tige de bois, va venir curer. Et comme c'est un cérumen qui est très friable, il va s'effondrer. Et en le remontant très lentement le long de l'oreille pour pouvoir l'enlever, c'est une sensation très agréable. Et beaucoup des clients de cette pratique s'endorment rapidement. Au bout de 10-15 minutes, ils s'endorment comme des bébés parce qu'on leur cure les oreilles.
Très bien. Ça ou du parmesan, il faut choisir.
Merci beaucoup. Quelle horreur. Merci beaucoup. Pinon. Je rappelle que vous publiez Une année japonaise aux éditions Inis, et puis à venir aussi un siècle d'animation japonaise. Vous reviendrez nous en parler au micro
avec
de la curiosité.
Plaisir.
Et l'article du Parisien Magazine, ils sont fous. C'est Nippon, d'ailleurs, c'est le Parisien Week-end maintenant.
Et il était temps que cette émission s'arrête parce que je raconte n'importe quoi. Vous pouvez la podcaster sur RTL.fr. Demain, 14h, comment se fabrique le meilleur chocolat au monde et les secrets des alchimistes.